Gameblogueuse, gameblogueur, salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, un podcast d'actualité et de jeux japonais aujourd'hui. Avec moi pour en parler, nous avons Carole.
Coucou.
Ça va? Rudy.
Bonjour à tous.
Ça va aussi?
Oui.
Johnny Wan.
Konnichiwa.
Oula, ça y est, tu parles japonais maintenant. Ok, Watashiwa.
Yamete
Janni Desu. Ça, ça se dit à peu près comme ça? Je sais pas, moi j'y connais.
Si, si, si.
C'est ça, ça. Ok, je parle pas du tout japonais, hein, je suis désolé. Arigato. Bref. Aujourd'hui, nous allons vous parler de trois jeux, trois tests, dont un très attendu. On va commencer par celui-ci. C'est Persona 5, évidemment. Ça fait quelques mois qu'il est sorti au Japon et que Rudy n'arrête pas de nous sriner avec tous les jours. Mais jouer à Persona 5,
sûr.
Vous allez voir, c'est le meilleur JRPG de tous les temps, etc., etc. On va vous en parler tout à l'heure parce qu'il arrive le 4 avril là sur PS4 et PS3. Et on va reparler un petit peu de ce jeu qui a fait une sacrée sensation au Japon. On parlera ensuite de deux DLC. Le premier, c'est celui de Final Fantasy XV, l'épisode Gladiolus, que Carole a pu tester pour nous, épisode Gladiolus. Donc le premier des trois scénarios du Season Pass de Final Fantasy XV. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il est aussi musclé que le personnage central de ce DLC? On verra une fois de plus tout à l'heure. Et on finira avec Dark Souls 3 qui se termine, ça y est, c'est terminé. Dark Souls 3, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de Dark Souls d'ailleurs, si je ne m'abuse. Hein,
non.
C'est terminé pour ça et ça se termine avec The Ringed City, le dernier DLC dont Johnny Wan va nous parler tout à l'heure. Mais avant ça, vous savez, il y a un rituel, le win et le fail de la semaine. Et vous savez quoi aujourd'hui? Bah, c'est pour moi. Voilà, c'est moi qui m'occupe de tout. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il a winné et qu'est-ce qu'il a failé. Le win. Si vous voyez derrière moi en étant premium, eh bien, il y a une borne qui tourne, une borne avec StarCraft 64. Bon, vous me direz, c'est pas banal de parler de StarCraft 64, surtout que c'est une version qui est sortie qu'aux États-Unis, un petit peu anonyme et tout. Et ben en fait, StarCraft, il y a une grosse actualité qui s'est révélée le week-end dernier. Blizzard a fait une annonce que beaucoup espéraient, hein, d'ailleurs. Ça fait quelques années que ça tournait même comme un poisson d'avril, d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, j'ai cru que c'était un poisson d'avril quand j'ai lu l'annonce, et pas mal de gens l'évoquaient encore en disant vous allez voir le 1er avril, on va l'avoir dans l'os, etc. Bah visiblement il paraît que non, en tout cas j'ai contacté Blizzard pour leur demander. StarCraft, le premier épisode, va être remasterisé. StarCraft Remastered arrive dès cet été sur PC, une version qui, comme vous pouvez le voir aussi si vous êtes premium, est lissée, va profiter d'un affichage en 4K, va avoir des tas d'améliorations graphiques, sonores, et qui va aussi améliorer beaucoup de fonctionnalités online, de matchmaking, bref, tout StarCraft en plus beau, en mieux, un jeu qui a quand même 19 ans aujourd'hui. C'est un peu surprenant de la part de Blizzard, Rudy.
Alors surprenant oui et non en fait, parce qu'il y avait toute la communauté des joueurs de StarCraft qui avait vraiment beaucoup de mal avec la transition qu'il y a pu avoir sur StarCraft 2. Et c'est notamment pour ça que toute la scène e-sport de StarCraft est complètement morte aujourd'hui. Et donc Blizzard, ils ont fait ça parce qu'ils aimeraient bien relancer ça. Et donc quand tu parlais ça, c'est que des améliorations qui vont être effectivement visuelles ou sonores, mais ils ne veulent absolument pas toucher au gameplay, parce que le but c'est que les anciens pros reviennent le plus rapidement possible sur le jeu pour pouvoir relancer les grandes compétitions de StarCraft qu'on a tous connues.
D'accord, parce que le gameplay est réputé comme étant le plus équilibré du genre RTS, le mieux
exactement
foutu, etc., etc. Et les Sud-Coréens sont aux anges depuis l'annonce, j'imagine.
Je
crois qu'il y a des femmes qui ont accouché dès le moment où c'est arrivé. Ils sont sortis dans les rues. Il y avait même des Coréens sur les champs, je crois, dimanche soir.
Exactement.
J'imagine effectivement que ça doit être la fête chez eux. Bon. C'est un peu surprenant, et surtout ce qui était encore plus surprenant, c'était que suite à l'annonce, il y a eu des déclarations de plusieurs personnes de chez Blizzard, et quelqu'un qui a dit quand même, ça se trouve, c'est pas forcément le seul classique qu'on va revisiter. Il a pas voulu en dire plus.
Un petit Diablo.
Imaginons le premier
Moi,
Diablo,
je pense
Diablo
ou Warcraft 2, peut-être.
Warcraft.
Ouais, ça pourrait être bien.
Bon, après, il pourrait y avoir Lost Vikings aussi. Bon, là, je vais un peu loin peut-être.
Ouais, voilà.
Mais bon, tout est possible, visiblement, tout est possible concernant Blizzard. Cette semaine n'a pas été égratignée que de win. Malheureusement, il y a eu aussi un fail. Enfin, un fail un peu tardif. En tout cas, un aveu un peu tardif, en tout cas. C'est Anders Sapkowski. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Ami polonais qui nous écoutait, vous me direz si je le prononce bien. Moi, je dirais André. Mais bon, ça s'écrit Anders Andrei. Bon, je vais dire Andrei. C'est l'auteur de la saga The Witcher. C'est le romancier donc qui a fait naître Geralt de Rive et tous les autres personnages que vous connaissez, avec lesquels vous avez pu jouer d'ailleurs dans les trois jeux The Witcher de CD Projekt. Il a fait une confession cette semaine, une confession assez, c'est un peu triste pour lui, hein, mais en même temps, voilà, il le dit lui-même, j'ai été stupide. Il a été stupide pourquoi ? Parce que tout simplement, au moment où il a donné les droits à CD Projekt pour réaliser des jeux sur la saga The Witcher, et bien il a dit non, je veux pas de droit d'auteur, moi donnez-moi une somme d'argent, une grosse, maintenant, c'est tout, je veux plus en entendre parler, de toute façon votre truc, ça marchera jamais.
Et encore, voilà. Tu parles de grosse somme d'argent, je pense que ce n'était pas connu, justement la licence n'existait pas, il a dû avoir un petit cachet, peut-être l'équivalent.
Mais c'était très connu en Pologne, hein. En Pologne c'est un peu comme nous, enfin... Oui, un peu comme dans le monde entier avec Le Seigneur des Anneaux. Là-bas, c'est un phénomène, le The Witcher. Mais c'est vrai que à
par
ce moment-là,
à ce qu'il aurait pu ramasser.
Là, il serait.
Il doit mordre la petite moustache là qu'on peut voir.
Et
d'ailleurs.
Ça se sent dans l'interview qu'il a accordé à Eurogamer. Hein, il le répète plusieurs fois. J'étais stupide. J'aurais jamais dû faire ça. Mais en même temps, qui pouvait deviner à ce moment-là que les jeux allaient rencontrer un tel succès? Il ne manque pas non plus, et c'est plutôt sympa de dire que les jeux sont plutôt bons, même si dans d'autres interviews par le passé, dans sa langue natale, il n'avait pas été aussi tendre vis-à-vis du scénar notamment et de la façon dont CD Projekt avait traité le truc. Mais voilà, Andrzej Sapkowski malheureusement n'a pas senti en fait le succès.
Et CD Projekt dans sa grande bonté n'a pas aidé ce personnage.
Je crois qu'il n'a pas besoin d'être aidé. Hein.
Oui, non, j'en veux bien, il doit gagner pas mal d'argent avec ses livres.
Quand tu t'es engagé après, c'est très rare qu'une boîte revienne en disant oh quand même, enfin vous fliez quand même un peu des
rôles. Ouais, mais ils sont assez sympas dans leur politique
de DLC.
Oui, mais
je pense que tu peux être sympa et pas...
Tu vois, ils peuvent être sympas.
Ils sont sympas avec les gens qui achètent leurs jeux.
Mais je pense que M. Sapkowski se porte bien.
Ouais.
Voilà. Mmh. Je pense que de son côté, avec tout ce qu'il a pu vendre
on
comme
va
bouquin,
pas le plaindre non plus, ouais.
Il est pas malheureux, mais bon, c'est vrai qu'après il aurait pu peut-être s'acheter, aller peut-être encore
une
deux chalets
de plus,
à Courchevel ou un truc comme ça, quoi.
Voilà.
Mais là c'est cuit pauvre. Malheureusement. Bref, c'était le triste fail pour Andrzej Sapkowski de la semaine. Et maintenant, on va passer aux trois thèmes de cette semaine une fois de plus. On va commencer avec Persona 5.
Ah,
Persona 5, Rudy.
Tu le dis déjà, j'ai mon petit cœur qui bat.
Ça y est, t'as déjà des frissons, tu n'en peux plus de nous parler de Persona 5, donc qui était sorti en septembre au Japon et qui arrive là le 4 avril. Alors, je sais que par exemple, dans ma timeline sur Twitter, le nombre de personnes qui m'ont dit j'ai plus de vie sociale à partir du 4 avril est assez phénoménal. Qu'il y a énormément de monde qui l'attend. Alors, moi, j'ai toujours pensé que Persona était un jeu de niche et que c'était pas spécialement connu en Occident, même si après Persona 4 a plutôt
c'est
bien performé.
Ça. En fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Les Persona, soyons nets, hein, c'était un spin-off de la série des Shin Megami Tensei, donc des RPG quand même vraiment de niche, particulièrement complexes. C'est exactement ça, mais obscur aussi bien dans le thème que, mine de rien, peu de personnes ont réellement joué à ces jeux. Mais finalement, avec l'arrivée de Hashino-san, le directeur en fait de la Team Persona, donc, qui s'occupe uniquement des personnages chez Atlus, ils ont décidé d'apporter des visuels un petit peu plus sympathiques, un peu plus flashy, beaucoup plus colorés, et à partir du Persona 3. Et c'est après surtout avec Persona 4 que là, il y a eu un plus gros succès. Enfin, la preuve, on a eu même d'autres jeux qui sont sortis sur le thème. On pensera surtout à
Dancing
Persona 4 Single Night.
Dancing Single Night, absolument.
Aussi.
Oui, il y en a eu deux. Mine de rien, il y a eu deux jeux de baston. Donc, comme quoi...
Wow. Un jeu et la version plus.
Oui, ça fait quand même deux.
Vous savez, vous êtes des fans de Persona, là. J'oublie à chaque fois que Johnny Wan aussi est un gros fan.
C'est vrai. Mais enfin, voilà. Donc, ils ont compris qu'il y avait réellement quelque chose à faire avec cette licence. Et Persona 5, c'est l'apogée de la série des Persona.
Mais pourquoi donc?
Pourquoi
même si tu nous l'as déjà expliqué un petit peu dans un podcast en octobre.
Rapidement.
Pourquoi
dans ce podcast en octobre, j'étais déjà, l'excitation est submergée. J'avais un peu mal expliqué. Donc, on va reprendre.
Ah bon, tu trouves? Oui. Moi, je trouvais très clair.
Ah, merci
avec
beaucoup.
Toujours ta très belle voix. Bref, je vais arrêter là.
On verra ça toi et moi.
Dis-moi en plus.
Alors pour Persona 5, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez donc le héros, encore une fois, qui n'a pas de nom, vous le nommez comme vous le souhaitez, et qui va être envoyé à Yongenjaya. Donc c'est un petit quartier de Tokyo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est considéré comme un délinquant pour avoir frappé un homme qui tentait d'agresser sexuellement une jeune femme dans la rue. Et donc, c'est à la japonaise. Donc, il a frappé cet homme-là. Cet homme a porté plainte et maintenant, c'est un délinquant. Donc, vous êtes dans ce petit quartier à Yongenjaya et vous devez vivre votre vie de lycéen. Et un jour, en allant au lycée, vous remarquez que votre lycée se transforme en palace en fait, mais un palace un petit peu bizarre où vous avez des jeunes étudiants qui se font tabasser, torturer devant vous avec un homme qui a une sorte de posture de roi et qui est le sort de roi du château et qui fait ce qu'il veut.
Mais là, qu'est-ce qu'un palace exactement dans tes paroles, parce que c'est pas quelque chose comme palace, la série avec
ils appellent ça comme ça. Si ça ressemble vraiment à une sorte de château avec son roi, sa reine, et au final finalement on comprend très rapidement que le palace n'est pas justement ce type de palace là. Ce palace en fait c'est une sorte de réalité alternative dans laquelle des adultes, et uniquement des adultes au cœur un petit peu sombre, mauvais, projettent toute leur excitation, toute leur passion, et tout leur désir. D'accord. Et donc c'est en fait le prof de PS du lycée qui est qui harcèle tous ses étudiants, et à un tel point qu'il en a réussi à créer cet univers différent. Et donc il se trouve que ce héros va avoir le pouvoir de devenir un voleur de cœur, c'est ça, le sort de gentleman thief comme ça à l'Arsène Lupin, et donc aura pour but d'aller voler le cœur de ce méchant en fait, de ce prof, pour pouvoir le retirer tout ça. Et à partir de ça va y avoir toute une intrigue qui va se créer avec de jeunes enfants qui vont se rebeller contre le système en fait, et essayer donc d'aller sauver le cœur des adultes corrompus.
Donc c'est un peu le Mélenchon du jeu vidéo finalement.
C'est
héros.
Ça en plus sympa quand même, et en plus sexy, et surtout avec un casting qui est aussi super. Donc déjà on a ces sujets là je vous parlais de harcèlement, ça va aussi parler jusqu'à du viol, ça va parler ça parle de suicide,
donc c'est très sombre dans les thèmes traités. Mais après le visuel en lui-même, c'est que ça a l'air complètement dingo, ça a l'air complètement barge et coloré.
C'est la première chose que je dis toujours, c'est les menus en fait, c'est l'interface utilisateur qui est simplement magnifique. Et dans une interview qui pourrait peut-être partir,
ça se trouve elle est parue au moment où on parle. Hein.
C'est vrai,
ça se trouve.
Effectivement. Mais donc dans une interview qu'on a pu avoir avec Ashino-san, donc le directeur de Persona 5, qui nous a expliqué pourquoi avoir fait ce type de visuel dans un jeu aussi sombre. Son but c'était de se dire, imaginez que vous êtes en train de vous balader dans la rue et que vous avez vos écouteurs. Les gens qui vous regardent, ils voient quelqu'un, simplement un homme ou une femme, en train d'écouter un peu de musique. Mais ce qui se passe dans votre tête quand vous avez la musique, peut-être que ça bouge, ça part dans tous les sens, c'est très excitant. Et c'est ce qu'il a voulu créer en fait avec ces menus-là. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des couleurs joyeuses, ce rouge-là qui pète dans tous les sens, avec toutes ces explosions de couleurs. Enfin, c'est juste magnifique. Et pour les yeux et pour les oreilles, vous allez prendre. Enfin, c'est que du plaisir. C'est du bonheur en barre. Et quand je disais pour les oreilles, la musique également. Tous les thèmes, du thème de combat extrêmement funky, bien groovy, aux autres thèmes dans les donjons, au contraire, lors des petites sessions de...
Un peu de furtivité.
Un peu de furtivité, mais je pensais surtout aux petites rencontres amoureuses qu'on peut avoir, les dates qu'on peut faire, parce qu'effectivement, ça c'est toujours présent et encore plus développé qu'avant, tous les moments en fait qu'on va pouvoir avoir, parce que ce n'est pas uniquement un RPG classique, c'est également une simulation de vie d'un étudiant. Donc on va sortir, on va se faire des amis, on va se faire des copines, on peut les tromper, faites comme vous voulez, c'est votre vie. On peut avoir un petit boulot étudiant. Enfin, il y a tellement de choses à faire et à découvrir. C'est, on prend du plaisir à tout moment. Il y a aucun moment où on s'ennuie. Mais vraiment, le jeu dure pourtant 60 heures. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas une heure en fait qu'on regrette une fois passé dedans.
Et la question importante, c'est est-ce que tu as trompé ta copine?
Dans le jeu, dans la vraie vie. Hein? Non. Je ne l'ai
pas
trompé.
C'est pas mon genre.
Non, voilà, exactement. Ce n'est pas mon genre non plus.
Enfin, laquelle, en fait. Voilà,
c'est
surtout ça.
Mais en fait, c'est ça. Je pense que la vraie question, c'est pas. Enfin, faites ce que vous voulez dans le jeu. Mais c'est plutôt quelle fille vous allez choisir. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ces fameuses waifus qu'on peut avoir, qui sont superbes. Il y a des doublages anglais excellents. Parce qu'à l'heure à laquelle je vous parle, on n'a pas pu encore avoir les doublages japonais sur la version européenne. Mais moi j'avais testé sur la version japonaise.
Ils sont pas sur le disque.
Ils sont pas sur le disque, ils sont à télécharger.
Mais pourquoi ils font pas l'inverse? Pourquoi ils mettent pas les doublages anglais à télécharger?
Ça va parler au marché américain.
C'est exactement ça. Non, ce qui est assez dommage, effectivement, pour les studios japonais, c'est qu'ils ne comprennent pas que ce type de jeu, surtout s'ils sont uniquement avec une traduction anglaise, les personnes qui vont acheter, c'est des personnes qui aiment justement le Japon.
T'as envie de parler japonais, quoi.
Voilà, c'est ça, t'as envie d'entendre parler japonais, surtout dans un jeu comme ça, qui se passe au cœur de Tokyo, enfin, aujourd'hui. Et donc, pour tous ceux qui aiment la culture tokyoïte, qui aiment bien Shibuya et toutes les sous-cultures qu'il peut y avoir autour, enfin, c'est excellent, mais jetez-vous dessus, la question se pose même pas, en fait.
D'accord, on parlait des thèmes tout à l'heure, c'est cette histoire de lien visuel un peu joyeux, avec des thèmes plutôt sombres. c'était bien le même réalisateur que Catherine.
Exactement. Ouais, moi ça me fait grave penser
mais
à Catherine.
Bah oui, parce que c'est exactement ça.
C'est le même univers de toute manière. C'est le même... Ça avait été confirmé plusieurs fois. On bah, a on vu Vincent vu... Dans,
voilà, dans
Persona
4,
4.
Bien sûr.
Exactement.
Et surtout même au niveau du moteur graphique, il faut être honnête, c'est pas le plus beau jeu techniquement. Hein. Enfin, ouais. La PS4.
Bah, il fallait qu'il aille sur PS3 aussi.
C'est exactement ça.
C'est d'abord là-dessus qu'il a été annoncé.
Voilà, c'est un jeu PS3 mmh. Qui reprend justement une bonne partie du moteur de Catherine. Mais. Pourquoi pour moi, je pense pour beaucoup, ce sera le plus beau parce que voilà, c'est cette direction artistique et tout ce soin qui est apporté aussi bien au personnage.
Regarde le bar là.
Exactement, par exemple là, pour ceux qui ont son premium, Catherine, hein. Vous voyez en bar, ça rappelle énormément Catherine avec la petite chemise rose. Mais aussi, et moi je vais surtout regarder juste la manière en fait dont le texte va être mis en avant. C'est même pas le design de tout, juste la manière dont le texte est mis en avant et donc tous ces efforts qui vont être mis pour. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, en fait. Et c'est ça qu'on ressent. Ça me fait un petit peu penser quelque part à Zelda Breath of the Wild, en fait. Où chaque petite parcelle, chaque petit coin de la map a été réfléchi, pensé pour qu'on puisse faire quelque chose, pour qu'on puisse s'amuser, pour nous divertir.
Tout à fait, ouais.
Persona 5, c'est exactement ça.
Moi qui ne connais pas, tu me donnes envie.
Ah, bah ça me fait plaisir.
Moi, tu m'as donné envie aussi depuis. C'est
ah oui, parce que comme
depuis
il
septembre. Ouais.
Ah, bah comme le dit, je n'arrête pas d'en parler à la rédac.
Ah, mais faut que d'abord que je me fasse Persona 4 Golden. Mais...
Le PKG, quand je l'ai lancé, il a stoppé net tout le reste et pendant un mois j'ai fait que ça.
C'est vrai.
Ouais.
C'était de Zelda
à finir. C'était de la folie.
Un peu comme Zelda, ouais.
Bah, c'est ça. Et sachez qu'il n'y a pas de lien entre les Persona 4, 5 et ainsi de suite. C'est à chaque fois de nouvelles histoires.
Je peux commencer par le 5, il n'y a aucun problème.
Ah, t'as quand même la Velvet Room, des trucs comme ça. Il y a des.
Oui, mais
y a une espèce de fil
rouge.
Non,
c'est récurrent, mais elles sont modifiées. Et même la manière dont la Velvet. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la Velvet Room est différente par exemple que celle dans Persona 4. Là, c'est une prison.
Oui.
Et ça,
avec
ça
deux geôlières
exactement.
Sexy, et dans une gentille, une méchante.
Voilà, un petit peu bizarre. On sent encore une fois tout ce principe de la domination. Enfin, ça va sur des sujets assez compliqués, encore une fois. Mais donc, oui, et ce qui t'explique très, très tôt dans le jeu, c'est que la Velvet Room, en fait, elle dépend réellement du personnage et donc de l'épisode en fait, de Persona dans lequel on joue. Donc, c'est même pas un problème, en fait. Vraiment, je
la Velvet Room, c'est l'endroit où on fait la personnalisation de son personnage, des personnages qui viennent l'aider.
Non,
c'est pas ça.
Alors, la Velvet Room, c'est là où on va pouvoir organiser ses personas. C'est là où on va pouvoir les fusionner, les sacrifier pour récupérer de nouvelles. Donc, non, ce qu'on peut personnaliser ses personnages à n'importe quel moment dans le jeu. Bien sûr, entre deux rendez-vous, pas de problème.
Très bien.
C'est
donc
un genre de hub, quoi.
Ok. Voilà. Donc, j'avais mal compris ce que c'était exactement. Et donc. Pour toi Johnny, je pense que tu l'as déjà précommandé 20 fois,
etc.
Et t'as ta version qui attend pour
signer. J'ai pas pris le collector, j'ai pris que le petit steelbook, ouais.
Mais Johnny, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, j'ai pas la place pour mettre tout ça chez moi.
Quoi?
Un petit steelbook, ça suffira?
Bah alors là, je suis choqué, Johnny.
Ah, là,
C'est quoi cette histoire de signature là que tu me
parles? Bah, je sais pas, mais j'imagine que t'en commandes plusieurs pour en avoir un signé ensuite, pour un jour au cas où. Sachant que Rudy va bientôt partir, il va pas nous quitter, mais il va bientôt partir. On ne sait jamais,
vrai,
hein, tu diras, oh bah tiens, tu peux aller voir ton pote, qui fait Persona, etc. On sait jamais.
Ouais. Tu m'as dit qu'il faisait Catherine aussi.
Ouais, c'est ça. Il
faisait Catherine. Je
vais te filer des trucs, toi.
Ouais, y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci.
Mais je vois ce petit perso là,
Morgana.
Qu'est-ce que c'est?
Morgana, c'est la mascotte de la série en fait. C'est un chat. Je vais pas expliquer un peu plus. On va apprendre à la connaître. Mais c'est exactement ça. Il y a toujours dans les Persona, il y a une mascotte. Dans le Persona 3, c'était un chien. Dans le Persona 4, c'était Teddy, sorte de gros ourson. Et là, maintenant, c'est Morgana, le petit chat.
D'accord.
Et c'est un garçon d'ailleurs, Morgana. Morgana est un garçon.
Mais qui a. Tu veux pas nous dire ce qu'il fait exactement? C'est quoi? C'est un compagnon pour le personnage principal?
Non, bah. Ah oui, donc c'est toujours. Il y a toujours un petit pet, un petit peu sympa, mais qui fait partie intégrante de l'équipe. Hein.
D'accord.
Et donc, c'est un combattant, il va se battre avec nous. Et c'est lui surtout qui va nous faire découvrir l'univers, justement, des palaces.
Attends, il y a du baseball aussi? Il y a
du baseball, il y a de la pêche. On peut aller aussi se battre un petit peu, on peut aller au cinéma, on peut...
Se battre, c'est-à-dire?
Enfin, se battre dans le sens... Ah, non, je me suis trompé.
J'imaginais que c'était Yakuza, quoi. T'arrives dans la rue, tu prends un mec, tu te dis tiens,
je
te défoncer.
On peut s'entraîner à faire un petit peu d'arts martiaux pour augmenter ses statistiques. On peut aussi aller voir une jolie médecin qui va vous donner des drogues un petit peu bizarres en échange d'argent. Ouais, c'est assez spécial.
En gros, ça marche comme un dating sim un peu. Tu as ta journée qui est découpée en moments. Tu vas choisir ce que tu fais à tel moment. Et quand tu as choisi, le temps avance, tu passes. le matin, tu passes à midi, ensuite l'après-midi, etc.
Mais ce, voilà. Ce qui est assez sympa, c'est que tu fais réellement ce que tu veux. Il n'y a pas, de bonne manière de faire le jeu. Donc, sachant qu'en fait, en une partie, il sera impossible de maxer toutes les caractéristiques de ton personnage. Mm-hmm. Et quand je parle de caractéristiques, je ne parle pas de caractéristiques en termes de combat, mm-hmm. mais je parle d'intelligence, de beauté, d'attention, de délicatesse, ce genre de choses.
Quoi.
Exactement, voilà. C'est ça, un vrai caractère, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et donc, c'est à toi de choisir quel type de personnage en fait ton héros va être, et si tu veux que ce soit le type de gars qui sort avec toutes les filles, ben tu peux passer ton temps, tu peux
venir décidément on y revient,
ouais. Non, effectivement, parce que moi j'ai tenté de faire ça avec lui, effectivement. Et mais c'est assez drôle justement en jeu la manière dont ensuite c'est décrit comme ça. Mais tu peux lire des bouquins pour essayer de comprendre un peu mieux comment elle fonctionne, ensuite organiser tous tes rendez-vous, ou sinon si tu veux devenir le meilleur élève de la classe, tu peux organiser des sessions de révision tout le temps. Si tu veux être le plus sportif, tu peux, mais il faut quand même faire attention à avoir les bonnes notes à la fin du semestre, parce que si vous ratez vos examens, game over.
Oh, et oui, c'est moche, c'est ça. C'est vraiment une simulation de vie. Quoi.
Ah oui, non, mais c'est simulation lycéen. Et vu que vous êtes déjà justement sur la sellette parce que vous êtes un délinquant, si vous ratez vos examens de fin de mi-semestre, de fin de semestre, c'est fini pour vous, game over. Donc il faut gérer toute cette vie-là. Il faut s'occuper des adultes corrompus, mais il faut aussi faire attention à avoir de bonnes notes. Et pourquoi j'arrête pas de parler aussi des relations amoureuses ? Parce que ces relations amoureuses vont également augmenter votre puissance en combat. Et ça, tout est lié. Il y a vraiment, et ça qui est extrêmement puissant dans ce jeu, c'est que toutes les actions, tout ce que vous faites, toutes les activités ont une incidence. Même si elle peut paraître lointaine, il y aura forcément un effet sur vos performances dans le palace. Et donc toute cette vie que vous avez de lycéen va complètement conditionner la manière dont vous allez découvrir les donjons. Et c'est ça qui est intéressant.
Est-ce que ça fonctionne comme dans PKG, où quand tu sortais avec Marie, tu avais carrément un d'histoire en plus, quoi.
Mais
ouais, là aussi
c'est ça, il y a
est-ce qu'il y a une fille vraiment à choisir? Bon, on va pas dire laquelle,
non,
du coup.
Pas, non ça je peux pas le dire, je peux pas le dire, mais effectivement en fonction de la fille que vous allez choisir, il y aura, vous allez découvrir des choses que j'en dis pas plus, vraiment.
Faut pas en dire plus,
voilà.
Non,
le seul truc qui est dommage, et ce que j'ai demandé, c'est que c'était pour savoir est-ce qu'il était possible d'avoir des relations homosexuelles dans le jeu. Pas du tout.
Tiens donc.
N'est pas BioWare qui veut.
Non, tu rigoles, mais c'est vrai que n'est pas BioWare qui veut. Et c'est assez dommage, et donc c'est pas possible.
Ah ouais, c'est bizarre. Pourtant, Catherine, elle est loin dans, dans certaines idées, notamment avec la barmaid qui était en fait un homme.
C'est exactement ça.
Au départ.
La barmaid.
Ouais. La barmaid sexy avec.
Petit spoiler, désolé.
Avec son afro. oui, mais c'est pas un spoiler. Enfin, des années plus tard.
Ok, d'accord. Comment on appelle ça, la speakerine.
C'est la speakerine, ouais, voilà.
La speakerine.
Parce qu'en fait,
qui présente Golden Show.
C'est elle qui présente le show.
C'est elle qui présente l'émission Golden Theater.
Elle présente, oui, voilà.
Exactement.
C'est ça. Non, ah, mais enfin, effectivement, c'est vrai que Catherine allait un peu plus loin. Ben, en plus, ça tournait uniquement autour des relations entre hommes, femmes. Justement, là. Personas, bon, ce qui est un peu dommage, j'ai essayé de poser la question, je n'ai pas eu de réponse. Peut-être, est-ce que dans un futur Persona il y en aura ? Je ne pense pas, malheureusement. Effectivement, on n'est pas BioWare qui veut. Mais bon, c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait lui faire. Mais bon, si c'est que ça, honnêtement, c'est pas.
Bon, quoi qu'il en soit, ce jeu, c'est 10 sur 10.
C'est assez amusant en plus, ça, que tu dis ça. Parce que quand tu regardes Persona 4, par exemple, t'avais au moins 3 personnages avec une très forte ambiguïté sexuelle.
Ah, mais complètement.
Et là, tu retrouves pas ça dans celui-là ?
Non.
Non ?
Bon. Enfin. Non.
Est-ce que t'es sûr que t'as tout fait?
Comment? Mais
est-ce
justement,
que tu es sûr que tu es sûr que tout
là, après, je sais pas, plus d'une 70aine d'heures de jeu, je continue encore d'y jouer, parce que je l'avais fait en japonais, maintenant je le refais en anglais. Il y a peut-être des choses que j'ai pas faites, parce qu'en fonction des liens que tu vas créer avec tous les personnages, tu vas avoir des éléments d'histoire différentes. En tout cas, c'est ça qui est fou, hein. Je suis persuadé que même après 200 heures, j'aurais pas encore tout fait, quoi. Enfin, c'est. Il y a à boire et à manger dans ce jeu, mais jetez-vous dessus, et le 10 sur 10, il était évident. C'est ça, à aucun moment je me suis dit, est-ce que. Non. C'était évident d'avoir un jeu aussi généreux que ça et qui soit aussi peaufiné, c'est la question se pose même pas en fait.
Donc meilleur JRPG depuis
ben honnêtement Persona 4. Depuis Persona 4 et FF15 pourtant il m'a beaucoup marqué, mais au-dessus. La question se pose même pas au-dessus.
Bah FF15 ça tombe bien, on va en parler.
Ben, voilà.
Merci Rudy. Puisqu'on va parler du DLC, du premier DLC qui est survenu cette semaine, ce mardi 28 mars. Premier DLC consacré entièrement à Gladiolus. Vous le savez, plutôt que de faire comme dans les anciens FF où quand on allait, on avait une tendance à creuser un petit peu les relations avec les personnages secondaires, bah, ça ouvrait vers des quêtes secondaires, etc. Bah, là ils se sont dit on va les mettre à part, on va les vendre. Et ça commence donc avec Gladiolus, le musculeux Gladiolus,
Et Carole, je me tourne vers toi parce que tu as pu le tester. Est-ce que ça fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose de costaud en termes de contenu, en termes d'histoire? Est-ce que ça apporte quelque chose au FF15 qui s'est mis à jour en plus cette semaine et dont on parlera aussi tout à l'heure de la mise à jour?
Alors, la réponse va être très claire, ouais, rapide et expéditive, tout comme ce DLC. Ouais. Non, c'est vraiment pas quelque chose de notable. Ça marquera pas les esprits. C'est ce que j'ai dit dans mon test, qui doit être disponible à laquelle on parle. Donc, on incarne Gladio, donc ça c'est cool. On découvre, attention spoil pour ceux qui n'auraient pas fait FF15, mais de toute façon, pour faire ce DLC, je conseille fortement, voilà, de faire FF15. Parce que c'est...
Johnny se bouche les oreilles.
Voilà, c'est étroitement lié. Il faut savoir que le DLC se déroule pendant FF15, à un moment où Gladiolus, souvenez-vous, s'absente, si vous avez fait le jeu, voilà, s'absente. Donc on ne sait pas trop, il revient avec une cicatrice. On ne sait pas ce qu'il a eu, on aimerait bien savoir. Ben justement, vous allez savoir ce qui s'est passé. En gros, il a envie de prouver sa valeur, prouver qu'il est digne d'être le bouclier du roi. Donc il veut prouver sa force, il va partir dans un endroit très 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 dangereux où il va, voilà, devoir prouver sa force et où il va rencontrer de nombreux boss, dont un boss dont je ne citerai pas le nom, qui rappellera de bons ou de mauvais souvenirs. C'est ce que
un nom très célèbre dans la série.
Voilà, dans la série, mais qu'on appellera ici plus communément le maître d'armes. Donc on le retrouve dans une sorte de... On en parlera après, okay, mais peut-être que tu le connais.
Je pense avoir
parce qu'il ne se ressemble pas du tout, en fait. Hein, enfin, il ne ressemble pas du tout à ce à quoi il devrait ressembler. Bref, passons. On le retrouve donc accompagné de Cor tout au long de cette aventure qui va durer environ une heure et demie. Donc c'est vraiment...
C'est pas très long. Ouais.
Vraiment pas long. C'est un couloir. En tout cas, c'est ce que j'ai...
Un couloir fait de baston.
C'est un couloir fait de baston et en plus, c'est un couloir qui est relativement vide. C'est pas très beau. On va rencontrer...
Comment ça, c'est pas très beau?
Sur les images,
je comprends pas là, c'est pas très beau. C'est-à-dire que les décors sont...
C'est pas très joli, c'est pas très soigné, les textures sont pas très
fines.
Voilà,
de ce qu'on voit, ouais, c'est pas officiel.
Ouais,
hein,
non,
franchement,
c'est un peu décevant en fait.
Ouais, mais, ouais,
c'est un peu décevant. Après, bon, encore une fois, c'est pas forcément... c'est pas le plus important, mais c'est, voilà, on va évoluer tout le temps dans le même décor, dans des ruines. J'en dis pas forcément plus, je ne veux pas spoiler. Et on va rencontrer des ennemis avec Cor, qui va donc prêter main forte à Gladiolus, et on va passer dans des chambres d'épreuves, des salles d'épreuves où on peut rentrer seul et non pas avec Cor à ce moment-là, il faut se débrouiller seul, et où on va affronter des boss, un certain nombre de boss qui vont nous donner un certain nombre de capacités pour enfin arriver au boss final et donc ainsi prouver qu'on est, voilà, que Gladiolus en tout cas est bien digne d'être le bouclier du roi. Donc moi j'ai trouvé ça très court, très vide.
C'est vrai, niveau scénar, ça ne développe rien du tout.
On sait finalement, voilà, ce qui s'est passé, ce qu'il a fait quand il était absent dans FF15. Mais bon, ok, une fois que tu le sais, d'accord. Et puis surtout, après chacun des boss qu'on va rencontrer, on va avoir un feu de camp où on peut se poser et sauvegarder. Et on va discuter avec Cor, en fait, hein, qui a combattu aux côtés du père de Gladio il y a des
années.
Voilà.
Mais d'ailleurs, moi, au départ, je croyais que c'était le père de Gladio, d'ailleurs. Hein, mais
voilà, mais pas du tout. C'était plutôt le pote du
au
père
début,
de Gladio,
hein,
voilà. Et donc, on peut poser des questions, mais même là, les dialogues sont pas très, élaborés. Enfin, ça part pas très loin. C'est très superficiel. Le seul truc entre guillemets, j'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai mis 7, hein, c'est ce qui est pas une mauvaise note. Ça veut dire que c'était bon. On a une bonne ambiance, c'est très mystérieux. On est dans des ruines, etc. Et on a également un système de combat qui est nouveau. Gladiolus ne se joue pas du tout comme Noctis. On va pouvoir se protéger grâce au bouclier donc de Gladiolus. On va avoir une jauge pour se protéger. Il va falloir faire attention à cela.
Mais j'ai vu de catch et des éléments de décor qui se faisaient attraper aussi.
Tout à fait. On a certaines. On va rencontrer par exemple des piliers qu'on va pouvoir prendre et envoyer à la figure de certains ennemis. Mais on va surtout avoir une attaque. Donc on a une épée, hein, on va avoir plusieurs attaques différentes, par exemple pilonnage, tornade.
Justement, est-ce que ça reprend les pouvoirs que toi tu as débloqués dans FF15?
En fait, c'est pas du tout ce à quoi on est habitué, c'est pas du tout les pouvoirs de Noctis, en fait, c'est vraiment une autre manière de jouer.
Non, mais les pouvoirs que Gladio, lui, on avait débloqué pour Gladio, qu'il nous file un coup de main.
Tu démarres au niveau 24. T'es au niveau 24 et tu peux juste améliorer les pouvoirs que t'as au départ avec ton épée, c'est-à-dire au début tu peux faire...
Non mais je vois ce qu'il veut dire, la tempête en fait tu peux l'avoir, ce sont les fameuses attaques de soutien.
Mais c'est seulement ça que tu vas pouvoir avoir.
C'est un stand-alone, enfin, ça fonctionne comme un stand-alone ou tu y accèdes depuis le jeu principal?
tu peux y aller directement. Même si tu n'as pas fini le jeu, tu peux lancer le DLC.
Ouais, mais ça se lance depuis le menu. Depuis le menu.
J'ai pas compris. Depuis le menu.
Ouais, c'est vrai qu'on est deux, excuse-moi.
Oui, c'est vrai. Du coup, que racontez-vous ? T'as l'accès au contenu additionnel. Ah, d'accord. Même si t'as pas fini le jeu.
Ouais, c'est un peu comme le chapitre 13 verset 2, on va parler un petit peu après.
Effectivement, t'as cette tempête, mais tu vas avoir que ça, c'est-à-dire que tu vas avoir une jauge d'attaque spéciale. Tu commences, il me semble, avec donc pilonnage, et tu vas pouvoir la faire monter, cette jauge, d'ailleurs, qui va se remplir beaucoup plus vite si tu te fais blesser ou si tu arrives à faire une parade. Et donc, ça va augmenter jusqu'à, tu as, je crois aussi, j'ai plus les noms exacts en tête, vous me corrigerez si je me trompe, mais fauchage. Mm-hmm. Et donc, tornade ou tempête, donc qui va être une attaque spéciale, qui va être l'attaque la plus puissante que tu vas récupérer à la fin après avoir battu un boss. Et c'est les seules attaques en fait que tu vas pouvoir utiliser. Les seuls objets que tu vas pouvoir ramasser, ce sont des potions, super potions et queue de phénix. Donc c'est vraiment très très restreint en fait. À part te protéger, utiliser donc le bouclier et balancer ses attaques, enfin des coups d'épée en maintenant rond et balancer tes attaques spéciales en appuyant sur triangle, tu vas pas avoir de. Enfin
aucune incidence sur FF15.
Mais il y a un multiplicateur.
Si, dans le sens où tu récupères des armes que tu vas pouvoir conserver.
Ah, donc si, imaginons que tu fasses le DLC en cours de partie pendant justement que Gladio s'est barré.
Tu vas
revenir à ta partie et tu auras les trucs qu'il a récupéré pendant. D'accord.
Voilà, exactement. Je ne dis pas quoi, mais dont une arme. Voilà, une arme assez bien, assez efficace, assez puissante. Mais j'ai trouvé ça très léger parce qu'effectivement, tu vas avoir juste. Vous le voyez là, sur les images. J'y vois rien parce que j'ai pas mes lunettes, mais je vois pas le.
Tu regardes pas la jauge de tempête qui est en bas, c'est ça ?
Voilà, vous allez avoir simplement cette jauge qui va grandir en fait et que vous allez pouvoir utiliser comme super attaque quand elle est pleine.
Et il y a un multiplicateur pour le coup, ce qui n'était pas présent dans FF15, et c'est quoi ça ?
Un multiplicateur, c'est-à-dire ce que tu vois
en bas. 3.3,
ben, en fait, dès que quand tu prends des coups, quand tu prends des coups et quand tu arrives à faire des parades, tu peux avoir ce multiplicateur, en fait.
Qui a l'air de donner une attaque
dégâts,
un peu plus puissante.
Et ça augmente. En fait, oui, tu arrives à faire des attaques qui sont plus puissantes, un peu comme quand tu arrives à faire des attaques dans le dos, etc. Mais sachant que corps, par exemple, mais il me semble l'avoir déjà dit, corps ne t'aidera pas. Tu vois, par exemple, t'as des boss spéciaux plus gros.
Oui, t'avais dit là où tu es seul.
Voilà, là t'es seul et là tu peux pas faire donc de combo par exemple comme c'était possible dans FF15 avec tes compagnons.
Mais la grande question que j'aurais alors, c'est est-ce que c'est réellement justifié en fait ce DLC ? Parce que moi j'ai l'impression que ça en donne maintenant en plus en.
Mais pour moi c'est des trucs qui ont été retirés.
C'est exactement ça. Et j'ai vraiment l'impression que c'était dedans parce que t'as pas d'attaques supplémentaires vu que ce sont les mêmes attaques qui sont déjà dans FF15. Même en termes d'objets, ce sont les mêmes. Enfin, t'as peut-être des armes qui auraient pu être à l'intérieur.
Ah bah t'as pas d'armes, hein, mais... t'as juste ton épée.
Enfin voilà, et corps en plus dans le jeu, il est très présent au début, ensuite il est inexistant.
Non mais même là, hein, il est là, il va t'aider dans les combats lambda, mais si tu veux, dès qu'il y a un autre boss, il part se cacher.
Mais voilà, et donc il y a pas un petit peu ce sentiment quand même que finalement c'est une sorte de partie qui a été retirée du jeu et qu'on file pas à côté.
Bah, je suis assez d'accord avec toi. Alors après, on va pas se plaindre pour.
Non, du contenu supplémentaire. Donc
c'est toujours du contenu supplémentaire, surtout pour le prix, ça coûte 5€. Mais c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Alors on est content si tu veux de découvrir ce qui se passe, ce qu'a fait Gladio finalement, comment il a eu cette fameuse cicatrice, etc. J'en dis pas plus, mais c'est pas très intéressant au final.
Ouais, c'est
un peu chier, c'est un couloir quoi. Ouais. Et en 1h30,
j'ai presque envie de dire, et encore quoi, parce que pour revenir à la mise à jour qui a eu lieu cette semaine, la mise à jour 1.7 qui pesait
le
quand même 5 gigas et quelques.
Le fameux chapitre 13 qui a été enfin modifié.
Une modification du chapitre 13 à laquelle on peut accéder d'ailleurs dès le menu principal pour justement voir une autre partie avec Gladio aussi et puis essayer de changer un peu le rythme aussi de cette partie qui est molle du cul et qui était vraiment mal foutu, on peut le dire. Ils ont amélioré le pouvoir de la bague pour que ce soit beaucoup plus puissant, etc., etc. Mais est-ce que c'est pas trop tard en fait ? C'est la question que je me pose pour les DLC et pour cette mise à jour. Est-ce que c'est pas vraiment trop tard ?
Est-ce
que c'est pas le truc qui aurait dû être là depuis
Ouais, je suis d'accord avec toi, ça arrive un peu après la guerre, quoi. On a tous fini le jeu, le trois quarts des gens.
Sauf Johnny One, voilà.
Pardon ? Non ! Mais c'est à cause de Persona ? Ah non, même pas.
Non,
je ne sais pas.
Nioh, Mass Effect, Final Fantasy.
Je pense honnêtement que Johnny One va, si jamais tu vas te mettre au jeu un peu plus tard, tu vas vraiment vivre une expérience complètement différente de la nôtre. Mais pour moi,
c'est
vraiment.
Bah, tu vas avoir un jeu complet.
Ouais, déjà.
Oui, c'est un peu ça.
Mais il y aura deux FF15. Il y aura donc le tien avec le chapitre 13 qui a été amélioré. Avec, mine de rien, il y a eu plein de petits ajouts qui ont, qui ont vraiment amélioré le quotidien des joueurs, notamment en fonction des quêtes, en termes de déplacement, ce genre de choses. Et que toi, tu vas avoir. Tandis que nous, on a eu la version.
Bêta.
Mais
bêta.
Oh, bêta. Moi, je pensais plus.
Et encore, je sais pas si la nouvelle, la nouvelle mise à jour a ajouté les cinématiques en plus qu'ils voulaient rajouter au passage aussi.
Ouais, pour le chapitre 13 en tout cas, oui.
Ce sera Fantasy 15 Alpha Prime Turbo.
Mais ouais, voilà, ce sera vraiment ça.
Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu dommage.
Après, j'ai quand même adoré Alpha Prime Turbo malgré le chapitre 13. Mais je pense qu'il y aura vraiment deux expériences complètement différentes.
C'est possible, bien que voilà, en tout cas, au regard de ce premier DLC, j'ai trouvé que ça n'ajoutait pas grand chose et que ça n'avait pas grand intérêt. Après, c'est cool de d'avoir Gladio avec un nouveau système de combat, parce que c'est vrai que Noctis il peut pas se défendre, il pouvait juste se projeter avec son épée.
Il peut se projeter avec son épée et peut s'il peut se défendre. Si, en fait, il peut se défendre.
Bah non, il n'y avait pas la garde comme Gladio.
Lui, en fait, il prend pas les coups, mais il se téléporte.
Oui, bah c'est ça, voilà. Il pouvait se téléporter quand il se jetait avec son épée.
Ah, voilà, et ensuite, tu te téléportes.
Exactement,
ouais,
donc c'était
vrai.
Pas la garde. Oui, c'est vrai, qui est pas pareil. C'est pas la même chose, donc c'est pas le même style de gameplay, c'est plus nerveux, j'irais. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était très léger, juste avoir cette jauge qui grandit avec pilonnage, fauchage et tempête. Bon, c'est cool, ouais.
Et votre avis sur le teasing qu'on découvre à la fin de l'épisode Gladiolus, sur l'épisode Prompto? Parce que s'il y a eu un petit teasing à la fin,
tout à fait.
Qui montre un bout visiblement de l'épisode Prompto, qui a l'air super sombre.
Bah déjà, ça m'attire beaucoup plus parce que, alors, je pense pas que ce soit vraiment un spoil, mais si vous voulez vraiment pas savoir, bouchez-vous les oreilles. 3, 2, 1, à la fin du DLC Gladio, effectivement, on voit Prompto qui tire sur ce qui semble être un soldat, en tout cas quelqu'un qui a une armure, mais il pleure. Avant de tirer, il hésite et il pleure en tirant. Donc
alors, Johnny Wan continue de te boucher les oreilles.
Ouais, mais je suis même pas sûr, vu qu'ils ont modifié le chapitre 13. Peut-être que
Je bouche les oreilles encore une fois, Johnny Wan. Parce que, et vous aussi qui nous écoutez, parce que quand on connaît le passé de Prompto, quand on sait ses origines, normalement, il y a quelque chose de chelou dans l'affaire.
Oui, c'est vrai.
J'ai même pas pleuré. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je suis désolé. Enfin,
c'est vrai.
Non, mais voilà, parce que moi, j'avais mis beaucoup de temps avant d'arriver jusqu'au chapitre 13. Pendant 35 heures, c'est bon. Enfin, quoique, pendant 35 ans, j'avais joué avec Prompto et ses amis. Et là, Prompto nous annonce qu'il est ça. Ouais. J'étais là, je dis, attends. Ça fait 35 heures que tu aurais pu me le dire quand même. C'est pas une heure avant la fin.
C'est vrai que c'est jeté comme ça et.
Bah c'est ça.
Mais un peu comme beaucoup de choses dans le jeu malheureusement.
Enfin voilà, donc
je suis
c'est
un peu triste
ça.
De ce côté-là.
Moi ça me fait un peu peur parce que si tu me dis que c'est, enfin si tu me dis que c'est un couloir d'une heure et demie, certes,
tu vas voir, fais-le. Si t'as 5 euros à dépenser et une heure et demie à tuer, tu vas voir.
Ou si t'as acheté le collector à 200 euros.
Tu vas te faire chier quoi. Je pense que tu vas te faire chier quoi. Je t'assure, y a rien de fou quoi.
Tu peux peut-être garder ta thune pour acheter des trucs très bons au Japon.
De Sunday, ce que je me disais.
Tu vois, y a même pas de magie à utiliser.
Il y a zéro émotion, j'imagine.
Il y a zéro. Ouais, c'est pas très. Y a pas de relief quoi. Même les musiques, je trouve qu'elles sont peu marquantes.
Ça, c'est dommage. Parce qu'après, tu vois, Gladios, ça reste quand même justement, on parlait d'un truc un peu nerveux. Mais voilà, c'est l'animal du groupe. C'est le gars, il est pas là pour être gentil.
D'ailleurs,
il y a un job à faire, il le fait.
Voilà.
Peut-être pour ça aussi.
Il a un costume
Prompto
torse.
Est plus faible.
Oui, il est plus touchant. Voilà,
c'est
un fragile.
C'est
le petit frère, ouais.
Mais
d'ailleurs,
si j'ai bien regardé, Gladio a un costume un peu comme Hot Ryu, où il est 100% torse nu, qui est spécialement pour ce DLC, si je ne m'abuse. Qui devrait faire plaisir à. Tu as eu l'occasion de le voir.
Aux amateurs.
C'est juste, juste torse nu, tu vois, comme ça, tranquillement.
Bah écoute...
Comme tout le monde, je crois qu'on
comme
attend.
Quelqu'un qui...
Non, on attend tous la tenue Power Ranger. C'est pas grave.
Il y a le film qui arrive. Power
Ranger. 5 avril. Bon, je pourrais pas
ça
le voir.
Ça va être magnifique. Mais voilà. En gros, j'ai pas surkiffé plus que ça. Après, oui, c'est sûr que ça fait un bon complément pour ceux qui ont adoré FF.
Une heure et demie de plus.
Et qui n'auront aucun mal à vouloir replonger dedans.
Mais voilà, c'est vraiment. Ça m'a fait penser à du déjà dans l'ambiance, ça m'a fait penser à du Dark Souls parce que c'est assez classe. On a des soldats qui sont, on connaissait pas ces ennemis là. On a des soldats en fait qui c'est des fantômes soldats. Leur armure se relève et ce sont des ça c'est. J'avais trouvé ça assez classe. C'est très très sombre, hein, vous le voyez là. Si vous êtes premium, on voit que c'est dans des ruines abandonnées, enfin des ruines hantées quoi. Hein, avec un gros
serpent,
des boss,
des prises de catch,
là aussi,
un dragon
ça fait, c'est très très classe. Vous avez deux modes de difficulté, hein, donc normal ou facile. En normal, c'est archi dur. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas de lust, mais voilà, donc le fameux boss final, on n'en dira pas plus.
Mais en même temps, son nom est écrit, donc si tu veux, c'est pour les premiums, c'est un peu facile.
Pour ceux qui ne sont pas premium,
attention.
Oui, c'est écrit. Mais donc, c'est ça que tu imaginais ?
Ils font chier en plus, et c'est dans le trailer quand même qu'ils ont mis ça.
Et c'est vrai en plus que c'est dans le trailer, parce qu'il ne se ressemble pas, enfin, il a quand même son épée.
Oui, mais il n'a pas plusieurs mois.
Enfin, bref. Bon, voilà.
De toute manière, au bout d'une heure et demie, tu l'aurais vu rapidement, je crois.
Oui, voilà. Mais bon. On va dire que voilà, c'est nerveux, il y a un bon rythme, bonne ambiance, bon. Mais c'est très.
Ça aurait pu être mieux.
Un peu expédié. Mmh. Voilà. Bon.
Tu parlais de Dark Souls ?
Oui.
Bah, c'est incroyable, dis donc, toutes ces transitions que vous faites à chaque fois. J'ai plus de travail, moi, avec ces conneries. Hein. J'ai plus faire les transitions tout seul. C'est vous qui les faites à ma place. Donc, on va parler de Dark Souls. Une fois de plus, Dark Souls 3, The Ringed City, le dernier DLC.
La cité enclavée en
La cité enclavée en français.
Ouais.
D'accord. Eh bien, wow. C'est le dernier DLC de Dark Souls 3 qui est sorti l'année dernière. Est-ce qu'on peut
en
parler
avril. Début avril.
C'était
pareil.
En avril 2016.
Ouais, début mi-avril. Ça fait un an. Hein.
Oh là, ça fait déjà un an. Et donc. Ça y est, c'est la dernière fois que Miyazaki nous fait un. C'est Miyazaki ? Ouais, c'est ça. Miyazaki nous fait
Hidetaka.
Nous fait un Dark Souls. Est-ce que c'est un bouquet final pour
série ? Oui. Ouais, carrément.
Ah ouais.
On peut le dire. Ouais.
Oh là, t'as l'air enchanté.
Franchement, c'était vraiment très bien. Tu me parles de bouquet final, oui, parce qu'en fait, ça vient faire le lien avec le premier.
Avec Demon's Souls ?
Non, Dark Souls.
Ah, Dark Souls.
Voilà.
D'accord.
Où on vient te reparler de Gwen, le Seigneur des Cendres, du héros du premier jeu. Enfin voilà, t'as une espèce de lien qui se fait au niveau scénaristique. Bon, bien sûr, l'histoire, elle est toujours aussi en pointillé.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est à toi d'aller la chercher en lisant des descriptions, les descriptions des objets, en écoutant bien tout ce que les personnages vont te dire. Il n'y en a pas des masses, hein, des dialogues dans le jeu. Mais ouais, tu vas avoir donc un gros background à aller chercher toi-même, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, ça vient faire le lien avec le premier. On a pas mal de petits clins d'œil, d'ailleurs, avec Dark Souls. Bon, c'est pas aussi puissant que par exemple, qu'on avait vu dans le 3 avec Anor Londo, ce genre de choses. Mais non, à ce niveau-là, c'est très cool. En fait, le jeu commence à la fin du premier. À la fin du 3. Mmh. Donc quand on arrivait sur le...
Ah donc pas besoin il a aucun rapport avec le premier DLC qui était déjà paru auparavant.
Non, tu peux le faire indépendamment. Okay. Voilà. Bon, après il y a certains points d'histoire qui seront un peu plus obscurs, dirons-nous, voilà. Mais non,
ce qui s'appelait Ashes of Arion DLC,
voilà. Tu peux faire les deux séparément, les points d'accès sont à un endroit différent. Donc là, pour faire celui-là, en fait, tu vas dans la zone du boss de fin de Dark Souls 3, et à côté du feu de camp, t'en as un deuxième, qui va te téléporter, en fait, donc la Dark Souls 3 terminée, en fait, sur le Capharnaüm des confins, ça s'appelle comme ça. Mm-hmm. Donc c'était une espèce de ville complètement déglinguée, sans dessus-dessous, un peu en mode, bah là, voilà, c'est ce qu'on voit là. Un peu en mode Inception, mais en mode médiéval, quoi, voilà. Mm-hmm. Et donc tu te retrouves là, et en fait tu vas venir te déplacer dans un premier temps dans cette ville, donc qu'ils appellent le Capharnaüm des confins. Tu vois là, par exemple, moi j'étais, quand je suis tombé là de la corniche dans l'église, enfin non, regarde, tu vois, tu survis. Par contre, t'as une saleté d'ennemi qui t'attend en bas, et lui, je crois qu'il m'a tué. Là, l'espèce de attends, non, on le voit pas encore, un espèce de serpent démoniaque de fantomatique qui sort de la neige, enfin voilà. Donc t'as voilà, lui. Il est assez violent. Ouais. Donc t'as une première zone qui est celle-ci, le Capharnaüm des confins, et ensuite c'est assez marrant parce que quand t'arrives à la fin de cette zone, tu plantes un drapeau dans le sol, et c'est un peu comme ce qu'il y a un peu dans tous les Dark Souls. Mm-hmm. T'as les espèces de gargouilles là, blanches, qui viennent te chercher, qui te téléportent dans un nouvel environnement, et là c'est la Ringed City. Mm-hmm. Et donc tu te retrouves en haut de cette cité. Déjà, dans un premier temps, et du coup c'est la spécialité Souls, Miyazaki, Bloodborne et compagnie, c'est que en fait t'as une vue sur toute la zone que tu vas visiter. C'est-à-dire tu vois, en plus là c'est assez stylé parce qu'on te place sur un point en hauteur au milieu de cette zone. C'est-à-dire que quand tu regardes à droite, tu vois des endroits que tu vas aller visiter, et à gauche aussi. Mmh. Et ça, c'est juste super classe. Voilà.
Tu te dis déjà où tu vas mourir.
Ouais,
en
voilà,
fait.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire. Donc en gros,
là, je vais mourir. Là, je vais mourir aussi.
Tu
là,
vois
là,
au loin la
mourir.
Cathédrale et tu te dis que c'est ton objectif. Quoi. Mmh. Voilà. Surtout, bon, en plus, on te le dit un peu plus ou moins. Voilà. Donc, ce qui a toujours été une des stars des Dark Souls, donc le level design, franchement, là, j'ai vraiment pas été déçu. Le DLC est en deux parties, donc une première partie plus linéaire, où on avance vraiment en ligne droite, mais dans des décors qui sont juste hallucinants, vous les avez vus tout à l'heure, là, le Medievalception, là. Et ensuite la deuxième partie, donc la cité... La cité enclavée, voilà, donc là c'est le début. Tu vois, on arrive là et on voit.
C'est magnifique.
C'est
hein.
juste superbe, quoi. Tu t'en prends, mais vraiment plein l'intérieur.
Ouais.
Et donc là, tu vois, ici, là, en fait, il y a un gars au fond. Tu vois la cathédrale là qui est à droite, pour ceux qui voient les images. En fait, il y a pas mal d'ennemis, de nouveaux ennemis assez stylés. Donc là, en fait, sur ce cimetière, quand on arrive à. Donc tu commences dans un cimetière quand tu arrives à la cité enclavée, il y a un gars qui appelle des archers. Et donc toi, tu dois te cacher et avancer quand les archers... c'est des archers fantômes, en fait. N'avancer que quand les archers sont planqués et tout. Là, tu vois, là, par exemple, je sais pas ce qu'il fait.
Ça me rappelle une pièce dans Zelda où t'as tous les gardiens qui se mettent à tirer sur toi quand t'arrives.
Dans le labyrinthe.
T'as 8 gardiens en même temps qui te tirent dessus. Ouais. Tu fais, oh merde, c'est quoi ces conneries?
Mais c'est un endroit très pratique pour ramasser des pièges antiques.
Je suis mort un certain nombre de fois sur cet endroit-là. Voilà. Donc tu vas avoir pas mal de nouveaux ennemis, ouais. Donc on a vu ce gars-là qui fait apparaître des archers fantômes. On va avoir des gros balèzes avec des espadons géants qui ont des patterns, mais juste hallucinants, où le pattern dure plus longtemps que ma part de stamina pour esquiver. Donc j'ai eu quelques petits problèmes contre eux aussi.
Faut être bien, comment dire, stuffé et high level
Alors moi, je l'ai commencé level 80, le DLC. Je t'avoue, j'ai un peu galéré. Du coup,
level 80.
Ouais.
Okay. C'est quoi le niveau maximum?
Je pourrais pas te dire, mais en gros
pour level 80, faut jouer comme un porc.
Non, level 80
heures,
c'était
tranquille.
Non. Mais j'avais fait le test, tu sais.
Ouais, je me rappelle, level 80, enfin.
Oh, tu peux monter jusqu'à 100-150 easy.
Oui. Ah, mais donc c'est que la moitié quand même quasiment.
Ouais,
un peu plus.
Ah ouais, non, le jeu je l'ai fait en mode un peu
c'est fou.
Commando quoi.
Waouh.
Donc non. Ouais, j'étais un peu faiblard, j'avoue. 80, c'est un peu faible pour faire ce DLC.
Ça me rappelle un live sur Fallout aussi, où j'étais un peu trop bas alors qu'on m'avait dit oui, niveau 35, ça passera tout seul. Ouais.
Nuka World.
Ouais.
Donc là, le level 80 était un peu limite. Je faisais pas beaucoup de DPS, je tapais pas très fort. Alors pourtant, j'ai eu une arme améliorée à fond. J'ai un perso, justement, c'est un guerrier. J'ai mis toutes les stats. En pour qu'il tape fort, justement. Bon, bah, là c'était un peu compliqué, hein. J'ai un peu galéré pour battre les boss, etc. Voilà, certains passages, notamment t'as un nouvel ennemi qui te rappelle bien que t'es dans un Dark Souls, quoi. Dès le début du DLC, c'est un espèce d'ange qui vole dans le ciel et qui te spamme des rayons laser dans la tête. En gros, en un pattern, il peut te tuer si tu fais pas attention, si t'es pas planqué derrière un mur. Donc j'ai fait un truc totalement débile, j'ai pris mon arc et j'ai essayé de l'avoir en me planquant de loin. J'ai dépensé une centaine de flèches, j'ai réussi à le tuer. Au moment où je l'ai tué, il a ressuscité. J'étais complètement fou. Enfin voilà. Non, je suis mort un très 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 grand nombre de fois.
C'est un bon Dark Souls.
Ouais, c'était cool. C'était assez dur de s'y remettre après avoir joué à Nioh là ces derniers mois, parce que c'est en fait tu te rends compte que Souls c'est vachement plus lent. Voilà.
Ouais.
Il y a moins cet aspect beat'em all technique que la Team Ninja a foutu dans Nioh. Donc je t'avoue, le premier contact, le premier recontact avec Dark Souls après Nioh était waouh.
Ouais, bah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
C'était assez complexe. En plus, c'était pas les mêmes boutons pour courir, etc., pour mettre des attaques. Donc ah non, là j'ai pris une potion. Enfin bref, voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore écrit mon papier, mais
au moment où on l'enregistre, tu l'as pas encore écrit.
Voilà.
Mais il
devrait
pas tarder.
Ça devrait pas tarder. Mmh. Et vraiment, 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 j'ai kiffé. Voilà.
D'accord. Bonne expérience Dark Souls. Bon condensé de Dark Souls.
Exactement. C'est-à-dire, t'as un très bon level design. T'as tout le background, le lore de la série qui est présent, qui en plus vient faire le lien avec ce qu'il y avait avant. T'as du nouveau bestiaire. T'as des nouvelles armes. Enfin voilà. Non, les fans vont s'en prendre plein la tête. En plus, c'est plus ou moins les adieux de Dark Souls à la scène vidéoludique. Enfin bon, on n'y croit pas trop, ça. Il y a une formule, il y aura probablement un Bloodborne 2, il y aura probablement un Demon's Souls HD qu'ils avaient plus ou moins teasé à un moment. Et puis après, là, moi, à mon avis, cette formule, c'est peut-être le dernier Demon's Souls, Dark Souls
ouais.
Mais on n'a pas fini de voir cette formule appliquée dans des jeux de From Software, à mon avis. Voilà.
D'accord. Bon, j'espère que From Software m'entendra un jour pour faire Autogi 3 ou des remakes de Autogi. des jeux que personne ne connaît à part moi, de toute façon.
Mais bah, c'est pas très j'avais grave. Fait quelques From Software, mais avant les Souls.
Mais, ouais, mais pareil, c'était les Steel Battalion, des trucs comme ça.
Il y en avait un que j'avais particulièrement aimé, c'était Ninja Blade.
Ninja Blade. Ah oui, mais c'était sur Xbox.
Ouais, c'était une exclu 360. Ouais. C'était un genre mais de.
Julo
m'en
parle
Ninja
souvent
Gaiden.
En disant que c'était un jeu qui il était vraiment nimp. C'était du nimp du début à la fin, genre comme Bayonetta, genre le
ouais,
mec qui se balade
ouais,
sur sa roquette.
T'en prends plein la tronche du début à la fin, exactement.
Mais moi, c'est Autogi. Autogi, vraiment, messieurs de chez From Software, Autogi, ressuscitez-moi ça. C'était tellement bien. Non, c'était pas trop dur, mais c'était vachement bien. Bon, bref, ce Dark Souls, ce dernier DLC, donc ça fait le job exactement comme
exactement.
Il faut.
Le précédent était un peu décevant, mais là, celui-là, rien à dire, franchement, c'est bon.
Bon. Eh ben écoute, je crois que les fans auront compris le message. En attendant, bon, la note elle devrait être parue au moment où on nous écoutera, hein, mais je pense que.
Bon, ça va tourner aux alentours de 8.
C'est vrai, tu penses ?
Ouais, je pense.
Bon, on vérifiera. Ça se trouve au moment où le podcast va paraître, ce sera pas ça et tu t'en mordras les doigts.
Ah.
Non, oh là là. Évidemment que non. Merci en tout cas pour ces impressions, pour l'instant impressions de ce dernier DLC de Dark Souls 3. Tu verses une larme, tu penses, après avoir fini
Non.
Non. Ah ouais. C'est quand même une série que t'adores, non?
Ouais, je sais, mais je sais que je verrai d'autres jeux. Que je te dis, la formule, elle est là, elle fonctionne. Certes, ils arrêtent Dark Souls, ils arrêteront pas de faire des jeux.
D'accord, voilà. Tu penses qu'il y aura un autre truc Souls?
Peut-être pas un Souls, mais déjà un Bloodborne 2, ça, je pense qu'on sera à peu
Bloodborne
près 2. Sûr de.
Ils sont un peu obligés, Bloodborne 2.
Ouais, voilà, exactement.
Oh bah oui, avec et le carton puis, du premier.
Je te dis, t'as une formule, tu veux une nouvelle IP, ils pourraient même nous faire un truc futuriste s'ils ont envie. Voilà, bon, c'est pas trop dans leurs habitudes, ouais, je pense, chez From Software. Mais pourquoi pas un Dark Souls dans le futur, ouais, avec des épées laser.
Ça
des
s'appelle
conneries.
Pas The Surge, ça, par hasard?
Ouais, j'allais dire aussi, oui, le truc de Focus, The Surge. Absolument, ouais.
Ouais, c'est pas encore sorti, ça.
Ouais,
bientôt.
Méfions-nous, Focus, c'est pas ceux qui avaient fait.
Farming Simulator, oui.
Non. un mauvais clone de Dark Souls.
De Dark Souls?
Ouais.
Lord of Fallen.
Ils l'ont édité après. C'est des Polonais, un ancien producteur de The Witcher. D'accord. Qui s'était mis dessus. Ça y est, j'ai oublié le nom du studio. Non, c'est pas Deck 13, c'est pas. Je sais plus le nom.
Parce que Lord of the Fallen, bon, bof quoi.
Oui, pareil.
Nioh a placé la barre beaucoup plus haut en termes de Dark Souls-like.
Il faut que j'avance dans Nioh.
Il faut qu'on avance tous dans Nioh. Mais on meurt dans Nioh. Donc c'est un peu difficile.
Ouais.
Bon, en tout cas, merci. Merci aussi, Rudy. Merci Carole,
merci.
Évidemment,
merci
pour ce podcast. Merci Poufy à la Sono. Et surtout, merci à vous, une fois de plus, de nous avoir écoutés et regardés dans un podcast de la rédaction. Comme d'habitude, comme chaque semaine, n'hésitez pas, là, juste en dessous de nous, regardez en dessous, là, voir s'il y a quelque chose déjà. Non, il n'y a rien. Je la ferai à chaque fois, cette vanne, j'aime bien.
Attends,
il y a des commentaires, évidemment, que vous pouvez laisser. Des avis aussi que vous pouvez laisser si vous avez joué à ces jeux que nous avons cités, si vous avez aussi replongé dans FF15 justement grâce au DLC Gladio ou grâce à la mise à jour, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous êtes comme Rudy, un Persona 5 sexuel, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous êtes un Dark Souls sexuel et vous imaginez vous aussi un Dark Souls dans le futur, dites-le nous, partagez avec nous. Hein,
moi je te dis ça, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut vraiment être n'importe
tant
quoi.
Que c'est du Dark Souls.
Ouais, voilà. Oui, ça fonctionnera.
Même un jeu de cuisine Dark Souls, ça marchera.
Bon, la direction artistique risque d'être un peu compliquée à mettre en place.
Une sorte de petit chef avec des cuistots, genre qui se mettent des aubergines pimentées à la gueule. Oh, c'est trop bon, j'en peux plus. Non, je vais mourir. Ce genre
ça, pour
de truc.
Le coup, je sais pas. Ça marcherait peut-être pas. Non, il faut
Gordon
quand même que ça reste assez. Faut que ça reste un minimum sérieux.
Bon. Eh ben écoutez, ce qui est sérieux, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. Encore une fois, merci. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. Et comme la formule l'exige, d'ici là, portez-vous bien et surtout...
Jouez bien.
Jouez bien.
Ciao.
Ciao.